Oui, s'il y a bien quelque chose, Guillaume, d'aussi constant que les nuages dans le ciel et la pluie à peu près partout en France, c'est la une de vos journaux quasi unanimement consacrée un jour de plus à la contestation sociale qui traverse le pays.
Vous, là, ben, j'en ai pas parlé.
Je vous les ai amenés. Attendez, déjà que vous m'avez ruiné la fin, vous, taisez-vous maintenant. Tenez, je vous ai amené les journaux. Grève SNCF, voilà, désormais le cœur de Les Échos. Hollande signe des chèques pour tenter d'enrayer la crise. Le Figaro. Loi travail, ce que la crise révèle dans La Croix. L'Humanité, pour casser la grève, les patrons du pétrole jouent avec le feu au Havre. Et enfin, Libération. Voilà, par ici, la sortie de crise avec la belle moustache de Philippe Martinez et l'air un peu pincé, hein, on peut dire, de Manuel Valls. Bref.
Pincé. En colère, il est en colère.
Mais voilà, le problème, Guillaume, c'est qu'après plus de 2 mois de manifestations et de grèves contre la loi de travail, que dire de plus qu'écrire encore alors que la situation se sclérose et que les différentes parties campent sur leurs positions respectives. C'est cette quadrature du cercle que vos journaux ne résolvent pas totalement. Ce matin, on retrouvera donc le jeu traditionnel avec le Figaro d'un côté pour la droite qui fustige les manœuvres de l'exécutif pour tenter d'apaiser la grogne catégorielle. Il paraît que François Hollande a trouvé une idée lumineuse pour mettre un terme aux mouvements sociaux, écrit Gaëtan de Capelle dans son édito. Elle consiste à lâcher aux syndicats ce qu'ils réclament dans les entreprises publiques et ailleurs, à signer des chèques à tous ceux qui font mine de grogner, tandis qu'en face, à ma gauche dans l'Humanité, les petites manœuvres de division décidées en haut lieu n'ont manifestement pas trop d'effet sur la détermination des salariés en mouvement, selon l'éditorialiste Michel Guillou. Un partout, la balle au centre, alors quoi de neuf? Non pas évidemment sous le soleil, hein, ce serait déplacé aujourd'hui, mais sous le ciel définitivement gris de cette nouvelle semaine de protestation, eh bien pas grand chose, hein. On manipule le même corpus idéologique encore et encore à grand renfort de métaphores ou d'aphorismes plus ou moins inspirés. La porte de sortie existe, encore faut-il vouloir l'ouvrir, nous prévient ainsi Laurent Geoffrin dans Libération. Rien ne va plus, les trains sont sur la voie de garage, les avions punaisés sur les pistes et le métro en carafe. Bientôt, la France en mode panne, écrit Denis Domin dans La Nouvelle République. Ce n'est pas seulement le coup de froid de ce printemps pourri, et cela dure depuis un moment. Du coup, histoire de détonner un peu, hein, dans cette situation figée, le patron du MEDEF joue l'escalade, parle de la CGT comme d'une dictature stalinienne et compare les syndicats à des terroristes. Hein, voilà la riche idée de Pierre Gattaz, tandis que Philippe Martinez, lui, et c'est peut-être le seul élément de nouveauté que vous trouverez dans les colonnes de vos journées ce matin, Philippe Martinez, à l'inverse, fait un pas vers l'apaisement et n'exige plus le retrait de la loi travail. Ce sont les Échos qui nous l'apprennent ce matin. Le secrétaire général de la CGT a franchi un nouveau pas hier en affirmant être prêt à rediscuter avec le gouvernement, et ce sans préalable. Il n'a plus, comme il y a quelques jours encore, exigé le retrait du texte lors d'un débat avec son homologue de la CFDT, Laurent Berger, sur RTL. Alors, article 2, réécriture, retrait, vous aurez votre compte d'analyse et d'opinion, de prise de position et de coup d'éclat, mais c'est peut-être Guillaume Goubert qui résume le mieux la situation dans son édito dans La Croix ce matin, quand il écrit que tout compte fait, ce sont deux philosophies qui s'opposent. L'une estime que les salariés n'ont pas suffisamment de force pour défendre leurs intérêts face aux employeurs et qu'ils doivent être protégés par un échelon supérieur. L'autre, dans un esprit de subsidiarité, fait confiance aux personnes directement concernées pour déterminer ce qui est préférable. Sera-t-il possible de trouver un moyen terme entre ces deux positions? C'est certainement là tout l'enjeu de cette nouvelle semaine de contestation.
Et pour décrisper le débat, Nicolas Martin, vous allez nous parler de quelqu'un qu'on aime.
Et oui, un peu d'amour dans toute cette tension, ça ne peut être que bénéfique. Alors parlons donc de cette personne que nous aimons tous, ou plutôt que nous aimons le plus dans l'écheveau de nos multiples et innombrables élus. Cette personne, l'élu préféré des Français, c'est le maire. Le maire, un constructeur du possible, titre même La Croix, qui lui consacre 2 pages pleines dans sa série « Vive la politique », eh bien le maire, on a beau l'aimer, lui aussi en a ras la casquette. C'est aujourd'hui que s'ouvre le 99e congrès des maires de France, et comme le dit le président de l'AMF, François Baroin, dans les colonnes du Figaro, le niveau de la grogne des élus locaux est très intense. Certains ont basculé dans une colère profonde, dit François Baroin. Cela est nouveau pour des élus placés aux avant-postes de l'idéal républicain et du respect de l'état de droit. Le cœur de cette colère, c'est la baisse de dotation du financement de l'État aux collectivités territoriales. Selon François Baroin, les villes et intercommunalités ne représentent que 4,5% de la dette nationale, mais elles doivent supporter 25% de l'effort de réduction des dépenses publiques. François Baroin, qui est, et bien comme la pluie en France et la contestation sociale, partout dans vos journaux ce matin. Dans l'Humanité, il réclame ainsi la suppression de la troisième tranche de réduction qui s'élève à 3,7 milliards d'euros pour 2017. François Baroin, qui a même droit à son portrait dans Libération, un portrait qui commence ainsi. L'an prochain, si tout va bien, le président de l'Association des maires de France sera devenu Premier ministre. Il suffirait, pour qu'il en soit ainsi, que Nicolas Sarkozy soit élu président de la République le 7 mai 2017. Libé qui croit savoir que cette alliance, que l'on pourrait estimer de la carpe et du lapin, entre l'ex-président et l'ancien bébé Chirac, est motivée par une rancune vieille de 20 ans, lorsqu'Alain Juppé, alors Premier ministre, l'a sorti du gouvernement en 1995. Bref, voilà votre choix aujourd'hui, contestation sociale ou François Baroin.
J'aimerais que vous n'oubliez pas la pluie, Nicolas.
Ah oui, pardon, la pluie, le temps pourri. C'est vrai que cette revue de presse ne serait pas tout à fait complète si je n'en disais pas un mot. Heureusement, Libération est là pour nous rappeler que d'une, et ça je suis sûr que vous ne le saviez pas, d'une, que le mois de mai est invariablement le mois le plus pluvieux de l'année. Oui, hein, ça vous embouche
non,
un coin.
Non, eh ben non, moi je l'avais remarqué.
Ah, vous l'aviez remarqué, voilà. Mais c'est parce que vous êtes très attentif à la météo.
Absolument.
Mais ce n'est pas tout. Si ce mois de mai 2016 bat tous les records en termes de pluviométrie, 140 mm à Beauvais par exemple, un record absolu de mémoire de relevé météo, eh bien les seuls coins de France qui sont épargnés, à part le sud-est, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure au début de cette revue de presse, Guillaume, la Bretagne et le Cotentin.
Ouais, enfin bon, voilà. Il n'y a pas de suspense.
C'est la revanche, Guillaume, c'est la revanche du tropisme météorologique de tout journaliste. Vous savez, chaque bulletin météo qui se conclut par « et enfin il pleuvra en Bretagne », une revanche enfin consommée. Kenavo.
Voilà, vous dites ça, juste à côté de la tour Eiffel qui a la tête dans la brume, qui disparaît presque complètement.